Vous écoutez France Musique. Miniature. Bonjour, nous arrivons au terme de cette série de miniatures consacrée toute cette semaine au compositeur Patrick Burgand. Et en guise de conclusion, nous reviendrons sur quelques grandes questions qui concernent la musique d'aujourd'hui. Patrick Burgand, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on regarde votre biographie, j'ai noté que vous avez été attiré très tôt vers l'idée de composer de la musique. Et j'ai lu que vous aviez entendu Arcanat, Varèse, je crois, et puis les métaboles de Dutilleux. Et que c'est, avec ces deux compositeurs, vous aviez trouvé peut-être une voie sur, disons, de nouvelles ressources expressives. Mmh. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que quand même, Varèse et Dutilleux, tout semble les opposer. Varèse, c'est le son brut, c'est la masse, c'est dur le son. Dur, hein. Vous prenez Ionisation ou même d'autres pièces, Amérique. Et puis, quand on est avec Dutilleux, bah, c'est peut-être le Debussy du XXe siècle.
Oui, mais ils ne sont pas si antinomiques que ça, parce que chacun a sa propre ressource expressive, si vous voulez. Justement, si vous donnez ces deux exemples, c'est vrai, ça montre la complémentarité. Ces deux exemples ne sont pas là pour aller l'un avec l'autre, mais au contraire, pour montrer ce que peut être noir et blanc, les deux versants d'une expressivité qui est à fleur de peau, parce que Dutilleux, c'est une musique fabuleusement sensuelle, extrêmement expressive. Varèse, une musique effectivement beaucoup plus brutale, certes, mais qui a aussi son expressivité propre, si vous voulez. Et c'est surtout que, bon, j'étais très, bah, quand j'étais assez jeune, hein, j'étais très méfiant vis-à-vis de certaines, ce qui me semblait une certaine facilité, si vous voulez, dans le chromatisme ou dans le fait que la tonalité soit partie en mille morceaux. Et effectivement, quand j'ai entendu Arcana, ça a été un choc. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire sans le recours du système tonal, ou enfin, voilà. Il y a quelque chose à faire justement avec ces sons, avec ces masses, avec ces chromatismes surchargés les uns contre les autres, ces oppositions de dynamique, etc. Dutilleux m'a confirmé dans le sens, parce que je suis, enfin, je pense que vous l'avez vu, assez dans la, je pense, dans la tradition de Debussy, de ce qu'on appelle parfois l'école française, etc. J'ai un amour inconsidéré pour Wagner, Richard Strauss aussi, bien sûr, mais on m'a souvent dit que ma musique était typiquement française. Bon, je veux bien.
Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul.
Bon, je ne suis pas le seul, c'est bien.
Je vais vous dire que les Allemands trouvent notre musique beaucoup trop décorative et beaucoup trop sensuelle.
D'accord. Enfin, c'est, bon, parfois on vous dit des tas de choses et moi je trouve que, bon, c'est des belles références. Mais en même temps, si vous voulez, je trouve Dutilleux dans cette filiation justement de Bussy-Ravel a su justement sortir des chemins d'une modalité, d'une tonalité. Parce que la musique de Dutilleux, quand même, elle va très loin, je trouve. Elle sait aller dans les sentiers non tonales d'une façon vraiment qui me convient tout à fait. Et donc, c'est avec ces deux, si vous voulez, que tout d'un coup, assez jeune, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire là.
Alors, on va tout de suite écouter une petite étude qui s'appelle Course. C'est une course pour piano que vous avez composée, Patrick Burgand. Alors, cette petite course pour piano, ça vous fait sourire, Patrick Burgand. On évoquait à l'instant le fait que vous faisiez peut-être partie d'une école française qui était sur la musique qui sonnait magnifiquement bien, sur une musique sensuelle, expressive. Alors, puisqu'on parle de ça, est-ce que vous pensez pas que quelque part ces notions étaient effacées, je dirais, par dans les années 70? Bon, c'est une autre histoire, les années 70, et qu'aujourd'hui, peut-être que les compositeurs de votre génération, vous avez à peine 50 ans, ont déjà commencé à renouer avec une certaine expression, avec une certaine sensualité de la matière sonore. Vous n'êtes pas le seul.
Oui, bien sûr, je pense qu'il s'est passé plein de choses dans les années 60-70. D'ailleurs, il y a eu des très bonnes choses aussi. Je trouve que ce serait dommage d'occulter complètement cette période de l'histoire, parce que, comment dire, c'est vrai que le problème, ça a été qu'on a perdu, disons, l'expressivité ou le sentiment expressif ou tout simplement le bonheur qu'on a à écouter une œuvre est devenu suspect tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Il fallait justifier par des considérations de construction, de de combinatoire, intellectuel, il fallait justifier les procédés. Donc je pense qu'il est bien de... Parce que pour écrire une œuvre, il faut de toute façon passer par une combinatoire, par des procédés intellectuels, par des procédés de construction. Écrire une œuvre, ça n'est pas recopier en fait une inspiration évanescente, bien
c'est
sûr.
C'est pas se mettre comme croire quelquefois les petits élèves au piano et jouer la lettre à l'île de Beethoven.
Donc en fait, le malentendu vient entre intellectualisme et intuition, si vous voulez.
C'est une chose qui a existé dans toute l'histoire de la musique. Vous prenez l'Ars Nova, c'est horriblement compliqué.
Bien sûr, bien sûr.
Et pas très expressif.
Tout à fait. La spéculation est quelque chose de... Enfin, la spéculation, non, il faut quand même prendre, disons, la combinatoire, si vous voulez, la construction est quelque chose d'obligatoire pour arriver à construire une œuvre qui se tient, si vous voulez. Donc, après, le problème, s'il n'y a que la combinatoire, la théorie, et qu'il n'y a pas de sous-tension musicale qui vienne le justifier, là, il y a peut-être un problème, en fait. Mais, à mon avis, il n'y a pas du tout d'opposition entre ce qui est intuitif et ce qui est intellectuel. Les deux se complètent et sont nécessaires pour arriver à écrire une œuvre d'art qui se tienne.
Eh bien, on va voir avec Chopin et sa barcarolle, et vous m'en direz plus après.
Quelle musique intellectuelle que Chopin, quand même.
Chopin, Patrick Burgand. Chopin, un compositeur intellectuel. Chopin, un compositeur qui réfléchit, qui spécule. Non, je ne souris pas. Enfin, si, je souris, mais ce n'est pas simplement sorti de sa plume comme ça.
Bien sûr.
Mais on pourrait imaginer en écoutant cette musique.
On est obligé de sourire parce que si on dit Chopin intellectuel, bien sûr, tout le monde va se dire mais qu'est-ce qu'il raconte. Mais ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder. Chopin est un orfèvre. Ses pièces sont d'une précision extraordinaire au niveau des proportions, des modulations. Pour comparer rapidement entre Liszt et Chopin, moi, j'ai grande admiration pour Liszt, évidemment, qui est quelqu'un qui a une fantaisie extraordinaire, qui est un inventeur, qui a fait avancer le langage musical d'une façon fabuleuse, mais Liszt est un improvisateur. On sent bien que parfois, il y a des œuvres, c'est des improvisations notées. Et je pense que, je m'avance un petit peu, mais je crois quand même, quand on voit ses œuvres, qu'il était beaucoup moins regardant que Chopin. Chopin, je pense, il n'aurait pas été satisfait de quelque chose, un peu comme Ravel. Il détruit, parce qu'il a besoin que ce soit millimétré. Les œuvres de Chopin, c'est des œuvres parfaitement calculées, les proportions sont... Voilà, il n'y a rien à dire, il ne peut pas rajouter une note ni en enlever une.
Alors justement, puisqu'on parlait de cette expressivité dans la musique de Chopin et puis peut-être aussi dans la musique du XXe siècle, et on parlait de votre musique, vous avez donc une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, vous allez voir juste 50 ans. Vous ne les avez pas encore, je crois.
C'est
Patrick
Burgand.
Bon. Alors vous revendiquez la beauté du son, vous revendiquez une certaine expressivité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont un courant dans lequel tout le monde va se retrouver, qu'on a quitté donc cette grande histoire qui a été nécessaire dans les années 70? Alors je vous pose la question, parce que je sais que vous avez fait de grandes études universitaires. Vous connaissez bien la musique. Quand on veut écrire quelque chose qui sonne bien, comme ce lac de Lamartine qu'on entend tout à l'heure, vous m'avez un grand violoncelle, c'est la voix humaine, le violoncelle.
Oui, bien sûr.
Donc il faut retrouver des moyens d'autrefois, peut-être. Enfin, je parle des moyens sonores, je ne parle pas des moyens de la composition musicale, mais il faut trouver les bons moyens qui ont fait effet. Ça passe par l'instrumentation, par la façon d'écrire la voix. Et puis après.
C'est différent un petit peu. C'est-à-dire que enfin, je ne vois pas du tout les choses comme ça, si vous voulez, dans la mesure où je ne me pose pas du tout la question dans ce sens. Et je crois que lorsque j'écris une œuvre, j'essaie de calculer. C'est difficile pour un compositeur, il ne sait pas toujours trop ce qu'il fait, quoi. Dès qu'on parle, on commence à s'apercevoir, à comprendre ce qu'on fait réellement. Lorsque j'écris une œuvre, en fait, j'essaie d'aller le plus près possible de l'écoute préalable. Je parlais les jours précédents de cette énergie en fait préalable. Quand vous écrivez une musique quand j'écris moi personnellement une musique avec texte, mon écoute préalable c'est le texte de toute façon. Donc à la limite c'est plus facile parce que lui il me dit tout ce que j'ai à faire. Voilà. Par contre si j'écris une musique pure, une musique sans texte, je vais écouter et elle va m'envoyer une dynamique si vous voulez, une énergie qui fait que je n'ai plus qu'à obéir avec le matériau. Si j'ai besoin d'utiliser un langage extrêmement chromatique, extrêmement avec des clusters, des choses épouvantables quand on parle de musique d'avant-garde etc. Vous voyez, pour schématiser. Non, mais pas du tout, parce qu'on en a besoin. Parce que pour cet endroit-là, par exemple, une pièce d'orchestre, admettons, vous voyez, où j'ai besoin à un moment donné de quelque chose d'extrêmement. Des agrégats, vous voyez, qui partent, qui explosent dans tout l'orchestre, eh bien, je vais utiliser ces techniques. Parce que justement, les années 50, 60, 70, nous ont mis en place, si vous voulez, ça a été un peu une période de laboratoire d'un certain côté. Donc, elle a permis de mettre en place des tas de solutions, finalement, qui nous sont données. Pourquoi ne pas les utiliser, vous voyez ?
Donc, on est dans une superbe époque de synthèse.
Mais oui, bien sûr, toute œuvre qui se respecte doit, d'une façon ou d'une autre, synthétiser. Mais regardez par exemple Monteverdi, quand on a eu la seconde pratica, il a eu l'intelligence évidemment de ne pas faire du récitatif à longueur de période. Non, il a gardé aussi, il a uni la prima pratica et la seconda pratica. Il a fait évidemment des mélodies accompagnées, mais aussi des polyphonies. Donc il faut synthétiser.
Alors, votre seconda pratica, Patrick Burgand, avec le Lac de Lamartine, un superbe violoncelle, la voix et le soprano et l'orchestre.
Thank you.
Le lac de la Martine pour soprano et orchestre. Merci Patrick Burgan, on se quitte sur cette très belle musique. Un grand merci à Philippe Carminati, Pierre Potier et Xavier Carrère. Vous savez que vous pouvez retrouver sur notre site miniature tous les éléments de cette émission. Maintenant, vous allez retrouver le Matin des musiciens. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée sur France Musique.